Je suis réjoui de voir l'église bien pleine pour ce dimanche de Pâques. Je pense que c'est important que nous soyons là pour fêter le ressuscité. Nous voulons entendre maintenant lecture de la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 20, les 18 premiers versets. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qu'il suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulés à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé en premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni !» Ce qui veut dire « Maître !»« Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Seigneur, ta parole est vivante. Ouvre nos cœurs et nos esprits maintenant pour que nous puissions la recevoir. Amen. Nous célébrons la Pâque, nous célébrons Pâques aujourd'hui. Jésus qui était mort, qui était enseveli et qui trois jours après ressuscité d'entre les morts, alors qu'il avait été condamné comme un vulgaire criminel. Alors qu'il a été puni par Dieu pour nos fautes et nos péchés, ce matin de Pâques-là, Dieu l'a réhabilité. Et en le faisant revenir à la vie, Dieu a montré vraiment d'une manière tout à fait glorieuse, incroyable, le pouvoir qu'il a sur les forces de la mort et du péché. À la croix et par la résurrection ensuite, Dieu a anéanti ses forces de la mort. Il en a triomphé par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est sorti du tombeau. Le corps n'y était plus. Alors il faut le dire d'emblée, la résurrection de Jésus pose beaucoup de problèmes à nos contemporains. Comment est-il possible de croire qu'un homme qui était mort, enterré, soit revenu à la vie. On sait d'expérience que ça n'arrive pas. Toutes les personnes autour de nous l'affirment. On n'a jamais vu un mort revenir à la vie. Cela peut peut-être faire partie des croyances, mais certainement pas d'une vérité scientifique. Peut-être pouvait-on y croire jusqu'au XVIIIe siècle, mais avec l'arrivée des Lumières, avec la démarche scientifique, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas possible. Demandez autour de vous quel est le moment le plus crucial dans l'histoire de l'humanité. Quand a eu lieu le point de bascule? Quand l'histoire de l'humanité a été changée? On vous répondra certainement que le monde a changé réellement à partir du XVIIIe siècle, à partir de la Révolution française, avec l'arrivée des sciences qui ont permis enfin de comprendre, d'expliquer le monde d'une façon rationnelle. Avant, on était dans l'ignorance des faits. Aujourd'hui, disent les gens, on connaîtrait le réel. On sait qu'on ne peut plus croire aux miracles. On sait que la résurrection n'a pas pu avoir lieu. Malheureusement, jusqu'à certains théologiens vont affirmer ces choses-là. Mais croire qu'avec l'arrivée de la science, avec l'arrivée du scepticisme, nous serions les premiers à découvrir que la résurrection n'est pas possible, c'est oublier que déjà du temps de Jésus, la résurrection était considérée par beaucoup comme un événement impossible. Les gréco-romains n'y croyaient pas. Et puis si un tel phénomène avait dû se produire, on l'aurait considéré comme un événement isolé, un accident de l'histoire. Chez les juifs, le parti des prêtres qu'on appelait les sadducéens était également très réservé sur les nouvelles croyances qui se propageaient, et en particulier la croyance dans la résurrection des morts, une croyance qui se développait avec la littérature apocalyptique. Eux préféraient s'en tenir à la lettre du Pentateuque. Mais une autre vision s'est développée, déjà dans le judaïsme traditionnel, où on a conçu qu'il était possible qu'il y ait une résurrection des corps. Et le christianisme des origines va considérer la résurrection du Messie crucifié comme l'événement majeur, un événement qui marque le tournant dans l'histoire de ce monde. Un tournant qui n'a pas eu lieu avec l'avènement de la modernité, avec le siècle des Lumières, mais le point de bascule a eu lieu quand Christ, le premier-né d'une nouvelle humanité, est revenu à la vie. Quand Christ est revenu à la vie, il a inauguré une nouvelle création. Il a inauguré de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Enfin, ce qui était corrompu, voué à la destruction, pouvait renaître, parce que Christ était plus fort que les forces du mal et que le pouvoir de la mort. Pour les premiers chrétiens, il n'était absolument pas possible d'imaginer que l'événement de la résurrection du Messie qui avait été crucifié n'est pas une incidence sur toute l'humanité. Pour eux, c'était évident que cette résurrection marquait le tournant de l'histoire. Et vous avez ainsi deux visions qui s'affrontent. Celle des chrétiens et puis celle de notre monde occidental moderne. Nous, chrétiens, croyons qu'il y a des choses invisibles. Nous croyons qu'il y a une réalité que nous ne pouvons voir de nos propres yeux. Nous croyons à la puissance de Dieu capable de ramener un mort à la vie. Nous affirmons que tout ne peut pas se réduire à des vérités scientifiques démontrables. Et nous croyons que depuis la résurrection de Christ, une nouvelle force de vie est à l'œuvre dans ce monde. Une force capable de transformer des vies, de les amener à penser différemment, à concevoir le monde différemment. Nous pensons que le salut est à l'œuvre dans ce monde depuis la résurrection de Jésus. Et nous pensons que Jésus va conduire un jour à l'établissement d'un monde entièrement nouveau, débarrassé du péché, du mal, de tout ce qui corrompt. Mais ayant dit cela, Une deuxième question se pose, une question un peu délicate. Si la résurrection est un fait historique, et je pense très sincèrement qu'elle l'est, nous avons toutes les raisons de croire que Jésus est ressuscité corporellement, que le tombeau était vide. Donc si Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est sorti du tombeau, qu'est-ce que cela change concrètement dans ma vie? En quoi ma vie en est-elle affectée? Et c'est à cette question que je vous invite à réfléchir maintenant avec le texte que nous avons lu. Nous allons voir deux personnes. Nous allons examiner l'impact de la résurrection dans la vie de Jean et dans la vie de Marie-Madeleine. Jean, le disciple bien-aimé. Jean qui voit un tombeau qui est vide, il examine les faits et que se passe-t-il? Il croit. Marie-Madeleine, la première qui a vu le ressuscité, qui a pu lui parler, cela bouleverse sa vie et elle deviendra la première femme à témoigner de l'amour de Dieu. Cela a changé profondément sa vie. Alors que s'est-il réellement passé le matin de Pâques pour que cela bouleverse la vie de Jean et de Marie-Madeleine? Bien, ce matin-là, Marie-Madeleine était sans doute accompagnée des femmes qui étaient les plus proches de Jésus et elle découvre que le tombeau est ouvert. Elle suppose que le corps a été volé, qu'il était déplacé et elle va prévenir les disciples. Pierre, Jean courent à toutes jambes jusqu'au tombeau. Jean regarde dehors, il voit les linges funéraires qui sont à terre, comme s'il s'était affaissé parce que Jésus s'en serait extrait. Et il est interloqué. Pierre arrive à sa suite, sans gêne, il entre dans le tombeau. Il voit cette cavité rocheuse, des linges par terre, mais son regard est attiré par un autre détail. Le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus est resté enroulé. Cette serviette n'est pas retombée comme les autres linges. Elle est restée à l'endroit où Jésus avait reposé sa tête. Il fait entrer Jean. Jean observe la scène. Il fait encore nuit dehors. Mais la lumière commence à se faire dans son esprit. Il commence à réaliser ce qui s'est passé. C'est pas possible. Ce ne sont pas des visiteurs indésirables qui auraient pénétré dans le tombeau, qui auraient volé le corps. Sinon, ces linges ne seraient pas là où ils sont. Sinon, ils auraient été jetés à terre avec précipitation. Et puis, de toute façon, les voleurs ne s'intéressaient pas au corps des défunts, mais uniquement à leurs bijoux. Et quand Jean voit la disposition des linges qui ont servi à embaumer le corps de Jésus, il comprend tout à coup qu'aucun être humain n'est venu pour enlever ces linges. Le corps de Jésus a juste dû s'évader à travers ces linges funéraires. Et les linges se sont affaissés d'eux-mêmes. Et le linge qui enveloppait la tête de Jésus est resté, lui, avec la forme qu'avait la tête de Jésus. Peut-être prisonnier des autres draps. Le corps de Jésus est sorti de ses linges un peu à la manière d'un papillon qui sort de sa chrysalide. Jésus, ressuscité, a reçu un autre corps, un corps glorifié, qui n'était plus soumis aux contingences matérielles. Et dans le tombeau, alors que Jean observe ses linges, il comprend. Il comprend qu'il n'est pas possible qu'autre chose se soit produit que la résurrection de Jésus. Et il écrit dans son évangile, verset 8 au chapitre 20, parlant de lui-même, « Il a vu et il a cru. » Il a vu et il a cru. Jean comprend que Jésus a été plus fort que les puissances de la mort. Il croit que Jésus est ressuscité. Il ne l'a pas encore vu, il ne l'a pas encore rencontré, mais il sait une chose, il est bien vivant, il en a la preuve, là, sous les yeux, même si sur le moment il n'en comprend pas encore toutes les implications, même s'il n'a pas encore compris que cette résurrection, c'était une nécessité, si le sacrifice de Jésus ne devait pas être vain à la croix. 3 jours avant, sur la croix, Jésus s'était écrié « Tout est accompli, tout est accompli ». C'est-à-dire tout ce qui était nécessaire à notre salut a été réalisé. Jésus a payé le prix pour notre péché. Il a subi la condamnation que nous méritions. Mais s'il ne s'était pas réveillé ensuite d'entre les morts, nous resterions enfermés dans notre péché. Nous n'aurions pas la promesse d'une vie éternelle. Il fallait que Jésus revienne d'entre les morts, que Dieu le réhabilite, pour que nous aussi nous puissions être réhabilités. Vous savez, le message de la croix n'a de sens que si Jésus est ressuscité. Donc Jean est dans la tombe et il dit « J'ai vu et j'ai cru ». Il fait l'expérience d'un Jésus qui est vivant. Il a un moment de révélation qui est ineffable. Il fait l'expérience du Christ ressuscité. J'ai vu et j'ai cru. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'il a tout compris à ce moment-là, mais cela l'a mis en route à la suite du ressuscité. Et je vous pose la question, croyez-vous aussi que Jésus est ressuscité? À la lumière des faits, en examinant ce qui s'est réellement passé, êtes-vous arrivé à la certitude que Jésus est aussi ressuscité? Pouvez-vous dire comme Jean, j'ai vu et j'ai cru? Si c'est le cas, c'est un événement qui nous met en route. Nous devons nous positionner par rapport à la résurrection de Christ. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Si Jésus est ressuscité, cela m'engage. Je dois me positionner par rapport à lui. Jean va consacrer sa vie à suivre le ressuscité. Voyons une deuxième personne chez qui l'expérience de la résurrection transforme la vie. C'est Marie-Madeleine. C'est une femme qui se trouve au premier plan dans tous les récits des évangiles où l'on observe ce qui se passe à la crucifixion et à la résurrection. Marie-Madeleine faisait partie d'un groupe de femmes qui avaient suivi Jésus dans son ministère. Et elle avait assuré le soutien matériel de Jésus. Vous savez que Jésus avait un groupe de femmes qui le soutenaient et qui lui permettaient du coup d'exercer son ministère. Marie-Madeleine devait être une femme sans doute assez aisée. Et les textes nous disent qu'elle a été guérie d'esprits mauvais. 7 démons étaient sortis d'elle. Alors on ne sait pas quelle était la nature de ces démons. Certains ont imaginé, mais sans aucune preuve, qu'il aurait pu s'agir d'épilepsie, de mélancolie aiguë, de dépression, voire même d'immoralité ou de prostitution. En fait, cette dernière hypothèse semble bien peu probable, parce qu'il s'agit sans doute là d'une confusion avec cette prostituée anonyme qui avait déversé du parfum sur les pieds de Jésus. Mais ce que l'on sait, c'est que Marie-Madeleine était libérée. Libérée d'esprit qui la retenait captive, et qu'à partir de là, elle a commencé à suivre Jésus par reconnaissance. À partir de là, sa vie entière a été centrée sur Jésus. Elle utilisait son argent pour soutenir le ministère de Jésus. Elle veillait à subvenir à ses besoins. Quand Jésus était à la croix, elle était là. Quand il a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» elle était là. Elle était là encore quand Jésus a rendu son dernier souffle. Elle était encore là quand Joseph d'Arimathée est venu prendre son corps. Et elle l'a suivi jusqu'au tombeau. Et alors que tous les autres disciples s'étaient éparpillés et dispersés, Marie-Madeleine est encore là, fidèle parmi les fidèles, fidèle jusqu'à la mort de son maître, ce jour de Vendredi Saint. Et le sabbat passe. Et tout est silencieux, c'est le repos. Arrive le matin de Pâques, Marie-Madeleine revient au tombeau avec des aromates, elle veut embaumer le corps. Et d'après l'évangile de Jean, il semble qu'elle soit la première à venir au tombeau, à voir que la pierre a été roulée. Et sans prendre même le temps d'entrer dans la tombe, elle court prévenir Pierre et Jean. Elle imagine sans doute que le corps a été dérobé, volé ou déplacé. Et puis elle revient au tombeau une deuxième fois. Elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. Où le corps de Jésus a-t-il bien pu disparaître ? Et cette fois-ci, elle pleure. Elle pleure le disparu. Elle se laisse aller à sa tristesse. Son Jésus n'est plus là. Et dans ce moment éprouvant, elle va faire plusieurs rencontres. Et c'est toujours étonnant de voir combien Dieu intervient dans les moments les plus éprouvants de notre vie. Il ne veut pas nous laisser seuls avec notre peine. Alors que Marie-Madeleine est en train de pleurer, elle se penche pour regarder dans le tombeau et que voit-elle ? Deux anges. Deux anges qui lui demandent « Pourquoi pleures-tu, Marie ?» Elle se retourne, elle voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier, un homme qui va se révéler être Jésus, et cet homme lui demande « Pourquoi pleures-tu, Marie ?» Il y a comme une forme d'invitation à cesser de pleurer, à prendre conscience que Jésus est là, à côté d'elle, même si elle ne le voit pas. Elle a les yeux embués, elle ne reconnaît pas son maître. Elle est en pleurs. Imaginez, pendant 2 ans, elle a soutenu Jésus. Tout dans sa vie dépendait de lui. Et maintenant, même son corps a disparu. Avec Jésus, c'est tous ses espoirs qui se sont envolés. Elle ne sait plus où est son Seigneur. Et il y a beaucoup de gens comme Marie-Madeleine qui ont connu l'amour de Dieu. Leur vie a été spectaculairement transformée. Ils ont pu expérimenter la joie, l'émerveillement, de l'enthousiasme à suivre Jésus. Ils avaient l'impression de ne jamais en faire assez. Et puis un jour, les circonstances de la vie ont ébranlé leur certitude. Et ils ne savent plus où est Jésus. La foi chrétienne ne nous préserve pas de la mort de nos proches, d'un mariage malheureux, d'un foyer brisé, du chômage, de l'infirmité. Et parfois, nous sommes contraints d'assister impuissant au spectacle désolant qui se déroule sous nos yeux, contraint de subir les événements sans pouvoir les fuir. Nous pouvons être écrasés par le chagrin. Parfois, nous devons lutter pour survivre. Et peut-être ce matin, y a-t-il des gens qui, comme Marie-Madeleine, sont en pleurs, désemparés. Où est Jésus ? Où a-t-il disparu ? Comment retrouver le chemin qui me permet de passer du pire cauchemar à la rencontre du ressuscité ? Marie-Madeleine nous montre une voie. Pour retrouver Jésus, d'abord elle est au bon endroit. Elle est allée là où elle a vu Jésus la dernière fois. Elle parle de sa peine. Elle n'a pas peur de demander de l'aide. Et si toi, tu as perdu la trace de Jésus, tu peux aussi retourner là où tu as vu Jésus la dernière fois. Et tu peux lui demander de l'aide pour le retrouver. Ensuite, Marie doit clarifier ses attentes. Elle doit apprendre à chercher Jésus là où il est vraiment. Elle le croyait dans la tombe. Il est à côté d'elle. Elle avait l'habitude de le côtoyer dans ses miracles. Elle avait l'habitude de voir ses prodiges. Elle attendait un Jésus triomphant. Elle n'a pas su le reconnaître au milieu de la souffrance. Et pourtant, Jésus est déjà là. Il l'attend. Et il vient lui poser une question pour l'aider à clarifier ses pensées. « Qui cherches-tu ? Qui cherches-tu? Qui est ce Jésus que je cherche? Est-ce que je cherche un Jésus qui va venir m'enlever toutes les difficultés de la vie? Ou est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus tel qu'il est? Jésus qui m'amène aussi à le suivre sur un chemin qui est le chemin de la croix. Jésus a envie d'élargir notre horizon. Dieu n'enlève pas forcément tous les cailloux sur notre route. Par contre, il va nous aider à franchir les obstacles. Et il va être là pour panser les plaies quand nous nous sommes fait mal. Quand nous sommes dans une situation comme celle de Marie, désespérée, Jésus vient à notre rencontre. C'est lui qui prend l'initiative du contact. Il lui demande « Qui cherches-tu ?» Et juste après, il fait ce qu'il a toujours fait. Il l'appelle par son nom. Il dit « Marie, Marie !» Comment il pourrait dire ce matin « Jacques, Simone, André, Pierre ?» Et ça suffit pour ouvrir les yeux de Marie. Vous vous souvenez que Jésus avait dit un jour « Le bon berger appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. » Et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Eh bien, Jésus nous connaît personnellement. Il nous appelle par notre nom. Il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Il t'appelle. Marie entend son nom qui résonne. Elle reconnaît la voix de Jésus. Mais à partir de là, elle doit apprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est plus, ou ce qui ne l'est pas. Quand elle a reconnu Jésus, elle a dit « Maître, Rabouni !» Et elle était toute joyeuse. On peut imaginer qu'elle est tombée à terre, qu'elle s'est prosternée, elle a peut-être saisi les pieds de Jésus, et elle s'est dit « Enfin, mon pire cauchemar est terminé, les choses vont pouvoir recommencer comme avant. » Je vais de nouveau pouvoir m'occuper de Jésus, l'aider avec les moyens financiers qui sont les miens. Je vais pouvoir subvenir à ses besoins. Mais que lui répond Jésus? Il lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. En d'autres mots, il lui dit quelque chose comme cela, Marie, écoute, tu n'as pas besoin de t'accrocher à moi comme si j'étais sur le point de disparaître de manière permanente. Ne t'accroche pas à moi comme si j'étais un rêve qui était devenu réalité. Ne garde pas cela pour toi toute seule. Ne t'accroche pas. Sois heureuse de me voir et va partager cette bonne nouvelle. Va dire la joie qu'il y a à m'avoir rencontré. Va dire à tous mes frères et sœurs que je suis en train de monter vers le Père, vers celui qui est devenu votre Père. Désormais, tu sais, c'est l'Esprit de Dieu qui va rendre ma présence, la présence de Dieu visible parmi vous. Et Marie reçoit cette mission d'aller annoncer Jésus. Comment est-il possible de croire qu'un homme qui était mort et enterré est revenu à la vie? Eh bien, Jean a vu les faits et il a cru. Marie a rencontré le ressuscité. Elle a parlé avec lui. Elle l'a découvert différemment de la manière dont elle le connaissait. Et cette rencontre l'a bouleversée. Ça l'a changée. Elle a été consolée. Elle a reçu la joie. Elle a reçu une mission et elle a obéi à son maître. La question que nous voulons poser, nous poser ce matin, en quoi la résurrection de Jésus a-t-elle changé ma vie ou va-t-elle la changer? Suis-je prêt à rencontrer Jésus tel qu'il est, lui le Christ vivant, le ressuscité? Lui t'appelle par ton nom. Tu peux faire route avec lui. Si tu l'as laissé de côté, reviens à lui, écoute-le. Il t'appelle, il veut marcher avec toi. Reprends la route avec lui. Où que tu en sois, mon frère et ma sœur, continue le chemin avec le Christ. Il est le Seigneur, le vivant, celui qui nous révèle le Père. Amen. Seigneur, nous sommes dans la joie de te connaître. Nous voulons te redire que nous t'aimons. Nous voulons te découvrir tel que tu es. Et nous voulons marcher à ta suite, proclamer que tu es le vivant et celui qui transforme les vies encore aujourd'hui. Amen.